l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce Présence Midi en direct jusqu'à 13h. Elle n'est pas en studio aujourd'hui, mais elle est en liaison téléphonique, c'est Anne-Rose de Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Jules, bonjour à tous.
Alors on va vous retrouver dans quelques minutes avec votre invité, direction l'IUT de Tarbes dans un instant.
Exactement, je reçois Frédéric Girard, qui est la directrice de Techdeco à l'IUT de Tarbes. Elle va tout nous expliquer sur cette filière assez méconnue et pourtant passionnante.
Et puis l'événement pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes ce week-end, c'est la béatification du père Pascal Vergès ce samedi. On va largement en parler sur notre antenne.
Oui, parce que le diocèse de Tarbes-et-Lourdes est vraiment, en fait, c'est la première fois que l'Église reconnaît un prêtre des Hautes-Pyrénées, martyr et bienheureux. C'est ce samedi 13 décembre et je vous rappellerai quelques petites informations sur la vie du père Pascal Vergès, du bienheureux Pascal Vergès.
Allez, petite interrogation, Anne-Rose, est-ce que vous connaissez Jean-Marie Lacrampe ?
Ah, je connais beaucoup de Lacrampe, vous savez, celui-ci.
Alors, vous le connaissez peut-être pas, mais vous connaissez en tout cas les bâtiments qu'il a construits, puisqu'il est architecte. Il est né en 1855 et à Lourdes, il a notamment construit l'hôtel de ville ou encore le château de Soumes, l'école Honoré-Ozon. Voilà, il a construit de nombreux bâtiments. Et on va en parler dans cette émission avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes, donc, qui nous parlera.
C'est formidable, on apprend des choses toutes les semaines. Avec
exactement,
vous.
Avec ce rouge, vous voyez, ce rouge un peu lourdé sur la façade des bâtiments.
Oui.
Voilà. Vous restez avec nous, Anne-Rose, on vous retrouve dans moins de 30 secondes pour l'agenda.
Allez, c'est parti.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence, aux portes du Tarn, 97.9.
L'agenda des diocèses nous amène aujourd'hui à Tarbes avec Anne-Rose Jankovic. Rebonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Au programme de cet agenda, dans un instant, on parlera des crèches de Noël, mais pour le moment, place à l'actualité et l'événement cette semaine pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, c'est la béatification du père Pascal Vergès, qui est né en 1910 dans les Hautes-Pyrénées.
Oui, il est né à Aucun, c'est dans le Val d'Azun, dans les Hautes-Pyrénées, dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Le père Pascal Vergès a été ordonné prêtre pour notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes le 2 juillet 1935. Alors avant la Seconde Guerre mondiale, il a exercé notamment comme professeur au petit séminaire de Saint-Pied-de-Bigorre. Et puis ensuite, déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et il est mobilisé et fait prisonnier de guerre. Il rejoint plus tard les travailleurs français en Allemagne, où là, il se dévoue vraiment pleinement de tout son cœur comme aumônier auprès de ses compatriotes français. Il continue de célébrer la messe, alors clandestinement à partir d'un moment, puisqu'il y a un décret nazi du 3 décembre 1943 qui interdit toute action catholique française parmi les travailleurs en Allemagne. Donc ça le mettait directement en danger, mais il a continué à soutenir spirituellement les travailleurs malgré ces interdictions. Et puis, il est arrêté le 20 septembre 1944 pour avoir dit la messe sans autorisation. C'était vraiment considéré comme de la propagande religieuse. Alors après son arrestation, le père Pascal Vergès est envoyé dans différents camps. Il y a d'abord le camp disciplinaire de Spergo le 21 novembre 44, et puis ensuite il a été transféré au camp de Sachsen. C'est là qu'il va mourir le 12 décembre 1944. Il meurt rapidement après son arrivée dans ce camp, d'abord parce qu'il a subi des sévices, des séances de flagellation, et puis il attrape dans ce lieu le typhus. Donc ça l'affaiblit énormément, et donc il décède le 12 décembre 1944. Alors l'Église le reconnaît comme martyr en haine de la foi, parce qu'il a vraiment donné sa vie à cause de son ministère sacerdotal en pleine période de persécution. Et sa béatification, c'est très important, elle a lieu ce samedi 13 décembre à Notre-Dame de Paris, mais c'est une cause collective, il n'est pas tout seul, ils sont 50 à être béatifiés samedi 13 décembre à Notre-Dame de Paris. Donc c'est vraiment un événement pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, mais c'est un événement pour l'Église de France. C'est vraiment, c'est important de bien considérer cela. 50 hommes, certains même très jeunes, sont morts dans ces camps nazis en martyrs, en haine de la foi, et ils seront béatifiés donc ce samedi à Paris. Donc vraiment, on se réjouit dans les Hautes-Pyrénées parce qu'il y a un homme de chez nous, un prêtre de chez nous, qui est reconnu bienheureux. Mais on est évidemment en grande communion de prière avec tous les autres lieux de France qui ont ainsi donné à l'Église et au monde, si je puis dire, un bienheureux. Donc voilà, un moment très important pour nous. Et donc Monseigneur Mika, notre évêque, se rendra samedi à Paris avec une petite délégation. Je crois qu'ils sont une dizaine. Il y a des membres de la famille Vergès. Il y a aussi quelques chrétiens de la communauté paroissiale, de la communauté chrétienne du Val d'Azun, puisque vous imaginez bien, dans le Val d'Azun, il y a au cœur en particulier la fête que c'est, la joie que c'est de se dire que, eh bien, quelqu'un qui est né dans leur village, dans leur lopin de terre, est maintenant bien heureux, déclaré bien heureux par l'Église. C'est vraiment une belle nouvelle. Et comme je le disais ce matin à Jonathan Botello dans la chronique du Tour des diocèses, c'est vraiment pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes une grâce immense qui est faite en cette fin d'année jubilaire. Si ça, c'est pas un acte d'espérance, eh bien, je sais pas ce qu'il nous faut.
Voilà, et à noter que pour les auditeurs du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, ils pourront suivre en direct sur Radio Présence cette béatification. Donc c'est ce samedi, vous l'avez dit, nous serons en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris dès 14h30.
Exactement. Et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, eh bien, je rappelle que depuis hier et jusqu'à la fin de la semaine, chaque jour dans le 12-13, vous pouvez entendre Monseigneur Jacques Perrier, l'évêque émérite du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, décortiquer un peu cette période et comment le père Pascal Vergès est mort dans ces camps disciplinaires, dans ces camps de travail nazis. Donc ça permet de se préparer, voilà, parce que avec cette émission, chaque jour de la semaine, eh bien, on apprend à creuser un petit peu plus la personnalité du père Pascal Vergès, vraiment le don de sa vie et le don de la vie de chacune de ces personnes qui seront donc béatifiées samedi 13 décembre.
Voilà, émission de Monseigneur Perrier à écouter dans une demi-heure donc sur notre antenne. Allez, on poursuit cet agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec un autre bel événement. Voilà plusieurs années que le service des archives et du patrimoine du diocèse de Tarbes-et-Lourdes invite les diocésains à installer la crèche dans toutes les églises. Et ça s'appelle l'opération Crèche de Noël.
Oui, c'est vraiment porté par le service Archives et Patrimoine. Alors l'objectif, il est tout simple, il est vraiment d'inviter tous les chrétiens à faire la crèche dans toutes les églises et tous les quartiers, de tous les villages et de tous les quartiers des Hautes-Pyrénées. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que tout cela est parti d'un constat que n'ayant pas la messe dans tous les villages ou dans tous les quartiers pendant le temps de l'Avent ou pendant le temps de Noël, eh bien il y avait une sorte de découragement. À quoi bon faire la crèche puisque de toute façon il n'y aura pas la messe? Alors là encore, je vais vous parler d'espérance, Gilles, mais si c'est pas un acte d'espérance de faire la crèche, de dire au monde que nous sommes dans un temps d'attente, de désir du Sauveur qui va naître dans la nuit du 24 au 25 décembre. C'est très important. D'abord, c'est important pour soi parce que faire la crèche, ça permet aussi de rentrer pleinement dans le temps de l'Avent. Mais c'est une manière de dire au monde, bah, nous, on attend quelque chose de plus grand, de plus beau, de rempli d'espérance. On attend la lumière du monde qui va arriver. Et voilà, on le dit au monde. Bah, c'est quand même notre vocation de chrétien, prêtre, prophète et roi. Eh bien, ça passe aussi par des actes comme ça, comme celui de faire la crèche. Donc l'opération est toute simple. On vous encourage à faire la crèche dans l'église de votre village. Si vous êtes tout seul, bah en fait vous n'allez pas rester tout seul longtemps. Si vous êtes tout seul, vous allez frapper, toquer chez le voisin, vous allez appeler un ami, une amie, appeler les grands-parents, les cousins, les cousines, vos frères, vos sœurs, qui vous voulez. Mais il y a forcément une personne ou deux que vous pouvez solliciter et qui sera ravie d'être sollicitée pour faire la crèche. Je vous assure que c'est toujours un tel plaisir de faire la crèche que si vous osez le proposer, les gens diront oui. Et puis une fois que la crèche est faite, bah c'est trop bête de refermer l'église et terminer. Une fois que la crèche est faite, essayez de vous organiser, peut-être pas pour ouvrir toute la journée et tous les jours du temps de l'Avent, qui est bien entamé déjà, mais peut-être essayez de vous organiser pour ouvrir, je ne sais pas, 2 heures pendant les dimanches de l'Avent, et puis 2 heures une ou 2 fois dans la semaine de Noël. Enfin, il n'y a pas une recette miracle, il y a plein de possibilités. Il faut trouver le rythme qui vous convient, mais en tous les cas, pour dire au monde qu'on est rempli d'espérance et que cette espérance-là, elle n'est pas que pour nous, elle est vraiment pour le monde entier. Donc les crèches sont vraiment des manières, des opportunités, si je peux dire que ça comme ça, de partager une belle nouvelle avec le monde. Donc vraiment, faites la crèche et dites-le.
Voilà, et bien en tout cas, voilà, faut pas que les diocésains hésitent. Et puis à noter également que sur catholique65.fr, il y a des bonnes idées à découvrir, il y a des crèches, des lieux à découvrir, je pense notamment à Galan avec la ronde des crèches, entre autres.
Oui, exactement. En fait, c'est vraiment la suite logique, c'est que depuis plusieurs années, donc on a lancé cette opération, et bien ici ou là, les chrétiens se sont mobilisés pour proposer, alors bien sûr, de faire la crèche, mais ils ont organisé des choses en allant un peu plus loin, en proposant carrément des rondes des crèches. Donc là, ils proposent à vraiment un large public d'aller de village en village découvrir les crèches de chaque église, dans chaque église. Alors effectivement, ça va être le cas à Galan pendant les vacances de Noël. Ce sera aussi le cas du côté des baronnies. Et puis, il y a 2 expositions, s'il me reste un petit peu de temps pour en parler, 2 expos incontournables. La première exposition, vous la connaissez depuis des années, elle existe à Saint-Lary-Soulan. 150 crèches de tous les continents, les 150 crèches du monde qui sont exposées en la petite chapelle Sainte-Marie au cœur de Saint-Lary-Soulan. Ce sera tous les jours à partir du 20 décembre jusqu'à la fin des vacances de Noël. C'est une exposition vraiment splendide, riche en couleurs. Les enfants adorent cette exposition-là. Elle dit un peu comment dans chaque pays on célèbre la naissance du Christ. Et puis il y a une 2e exposition, ça c'est une nouveauté, exposition des crèches au cœur de Tarbes en l'église Saint-Jean à partir du 13 décembre. Et puis il y en aura plein d'autres parce qu'au fur et à mesure qu'on parle de cette opération, des gens lèvent le doigt en disant hey, moi aussi. Alors ça me fait très plaisir. Hein, voilà. C'est mon cadeau de Noël à moi. C'est quand les gens disent nous on fait des crèches et puis on organise ceci et cela. Je suis contente. Et
en plus, je pense que ce qui vous ferait encore plus plaisir, c'est si on vous envoie des photos des crèches pour les publier sur le site.
Exactement. Alors là, ce serait vraiment un magnifique cadeau si vous pouviez envoyer même des photos de votre petite équipe, même si vous n'êtes que 2, en train de confectionner la crèche. Quelques-uns nous en envoient et c'est fort sympathique d'avoir ainsi des petits échos, des vallées, de tous les coins de la Bigorre et des 4 vallées qui nous disent regardez notre crèche comme elle est belle. Oui, c'est joli. Donc voilà. Quand c'est joli, il faut partager.
Exactement. Voilà pour cette opération. Donc crèche de Noël dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Il nous reste quelques secondes pour rappeler à nos auditeurs que le bulletin du diocèse de Tarbes et Lourdes va sortir dans quelques jours, un bulletin spécial Noël.
Normalement, si tout va bien, vous l'aurez dans vos paroisses ce week-end, effectivement. Et un bulletin spécial Noël, enfin spécial beaucoup de choses, puisque on fait la part belle, bien sûr, à la béatification du Père Pascal Vergès. On parle beaucoup de Noël, on parle aussi beaucoup de mission. Il y a énormément de choses. C'est un bulletin de 32 pages, donc vous aurez de quoi lire au coin du feu pendant les vacances de Noël, si vous avez la chance de faire une petite trêve. Voilà.
Un grand merci Androse Jankovic, voilà pour cet agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, en tout cas une partie de l'agenda, catholique65.fr, c'est le site internet, il ne faut pas hésiter à aller consulter ce nouveau site internet. Merci Androse.
Merci Jules.
Vous restez avec nous puisque dans un instant, direction l'IUT de Tarbes.
Oui, avec Frédéric Girard qui est la directrice de TechDeco, une des formations proposées à l'IUT de Tarbes, une formation qui est peut-être pas très connue mais qui est vraiment très intéressante. On découvre tout cela dans quelques minutes.
Merci Androse, à tout de suite.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Bonjour Frédéric Girard.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes la responsable du département Tech Deco à l'IUT de Tarbes. Aujourd'hui, vous allez nous présenter cette formation depuis 1992. Cette proposition existe à l'IUT de Tarbes, donc Tech Deco. Tech Deco, c'est un raccourci. Vous allez nous expliquer ce qu'il y a derrière. Ça n'est pas de la communication, comme on pourrait le penser. D'abord, peut-être qu'on peut faire une présentation un peu générale de cette filière. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous proposez?
Oui. Donc le BUT Tech Deco, technique de commercialisation, c'est déjà un diplôme en 3 ans qui prépare donc au niveau bachelor, c'est-à-dire L3, aux études de commerce en fait, très généralement, donc en préparation soit d'une poursuite d'études dans ce domaine, soit d'une insertion professionnelle dans tous les métiers du commerce.
Donc l'avantage de cette formation, c'est l'alternance, hein. C'est une formation qui propose vraiment une découverte, une professionnalisation, c'est ça l'objectif.
Alors le propre du BUT déjà, c'est d'être un diplôme professionnalisant. Par rapport à un bachelor classique, dans la mesure où nous avons déjà 60% des enseignements qui sont des enseignements théoriques et 40% d'enseignements appliqués. Et effectivement, nous pouvons proposer à partir de la deuxième année la formation en alternance, donc deuxième et troisième année du BUT.
Et ça, c'est la proposition qui séduit le plus. C'est ça que les étudiants viennent chercher, cette possibilité d'être rapidement mis devant devant le travail à accomplir techniquement.
Alors effectivement, on a un profil d'étudiant un peu particulier. Bon, déjà, c'est important de le souligner. Dans la mesure où on a 50% d'étudiants qui viennent de bacs technologiques et 50% qui viennent d'autres bacs. Et c'est vrai que il y a une motivation quand même assez forte vers la professionnalisation, mais pas uniquement, parce que notre formation a, on va dire, un double objectif, à la fois une insertion professionnelle après le BUT si on le souhaite.
Donc ça veut dire que dès qu'on termine, c'est possible de
travailler. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Effectivement, c'est fait pour ça. Mais aussi c'est une très très bonne préparation à la poursuite d'études, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Alors effectivement, les étudiants sont très intéressés par le côté professionnalisant au travers de l'alternance, c'est certain, des stages. Et c'est vrai que l'alternance, c'est une proposition qui est assez séduisante pour eux, parce que ça leur permet déjà de mettre en pratique ce qu'ils voient en cours. Ça leur permet d'avoir une première expérience professionnelle, et ça compte vraiment sur le marché du travail, ensuite, quand ils pourront postuler sur un emploi.
Et puis c'est valorisant très vite.
C'est valorisant très vite. Effectivement, ils se rendent compte assez vite de ce qui leur manque aussi. Et puis souvent, on se rend compte après une année, notamment même quelques mois, que c'est pas du tout le même profil d'étudiants qu'en formation initiale. Ils sont très beaucoup plus professionnels dans leur posture.
Ça veut dire plus près à aller dans le monde de l'entreprise. Il y a cet aspect-là qui compte, quoi.
Oui, tout à fait. Il y a une maturité professionnelle. Ouais. Alors, quand ils reviennent souvent, quand même, ils se lâchent un petit peu parce qu'ils sont contents de revenir en formation. Mais c'est vrai qu'ils développent des savoir-être qui sont particulièrement importants pour la suite aussi.
Oui, et dans ce domaine de profession, la commercialisation, bon, faut avoir aussi ce savoir-être qui est très important.
Oui, oui, oui. Nous avons beaucoup de cours de communication, communication commerciale, expression, communication, culture, des cours de psychologie d'ailleurs.
C'est vraiment un métier de relation. En fait, c'est vraiment du relationnel.
Alors, c'est une partie du métier. Donc c'est vrai que c'est dans ces termes-là qu'on se représente le métier de, de commercial souvent, mais il y a aussi toute une partie d'analyse, de stratégie, et notamment au niveau marketing par exemple.
Alors justement, les profils des candidats, qui sont les étudiants qui viennent frapper à votre porte? Ils sont plutôt attirés par quel aspect de cette profession? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au fond?
Alors, nos étudiants ont un profil plutôt de communicant.
Ouais.
Ils sont généralement assez extravertis. Ils n'ont aucun souci avec la communication.
Qu'est-ce que ça veut dire, extraverti?
Bah, parfois, ça peut être un peu difficile de les tenir en classe, par exemple. Ils sont très, très négociateurs dans l'âme, y compris avec les profs.
Ah, donc ils sont prêts à faire du commerce, quoi.
Ils sont tout à fait prêts à faire du commerce.
Non, ils sont pas là par hasard.
Ils ont déjà, on va dire, un peu ces compétences-là innées. Enfin, ça fait partie un peu de la fibre.
Ouais.
Si un étudiant est très très réservé, il va très vite se sentir mal à l'aise dans les cours,
ouais.
Parce qu'il y a des cours déjà de négociation avec des mises en situation, et là il faut quand même pouvoir assurer, donner le change.
Il faut avoir du répondant.
Il faut avoir du répondant. Voilà.
Et donc vous leur apprenez tout ça.
Voilà.
Mais ils ont déjà un terrain favorable.
Exactement.
Revenons sur les cours. Vous avez dit 40% de cours qui sont des cours pratiques, en fait. Qui dispense ces cours? Ce sont des professionnels, des chefs d'entreprise qui viennent directement parler aux étudiants?
Alors, l'IUT, c'est une formation universitaire. Donc, on a cette particularité d'avoir trois grandes familles d'enseignants. On a d'abord des enseignants pur produit de l'université, enseignants-chercheurs. Ensuite, on a des enseignants qui sont des agrégés ou des certifiés qui viennent de l'enseignement secondaire.
Mmh.
Et effectivement, on a des intervenants professionnels. Et c'est vrai que ces intervenants-là, généralement, les étudiants adorent leur cours parce qu'il est beaucoup plus concret. Mmh. On leur donne des illustrations, du quotidien en fait, hein, ce qui fait que ça rend le métier et la matière beaucoup plus vivante. Après, il faut un peu des deux, il faut de la théorie, de la pratique.
Et oui, bien sûr.
Et je pense que c'est une vraie force pour la formation en fait, d'avoir cette pluralité de regards, d'enseignement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on prépare aussi à la poursuite d'études.
Mmh.
Et donc avoir une formation aussi théorique avec des enseignants chercheurs ou des agrégés, et c'est forcément aussi un plus.
Est-ce qu'aujourd'hui la filière IUT est une filière qui séduit, ou bien c'est une filière qui souffre un peu de préjugés?
Ah non, c'est vraiment une filière qui séduit et qui est une réelle alternative dans le paysage de l'enseignement supérieur. On n'en parle peut-être pas suffisamment,
ouais.
Parce que par exemple en matière de commerce, on pense tout de suite aux écoles de commerce. Alors que l'IUT est une très très bonne voie de préparation si on souhaite continuer. On a des étudiants qui régulièrement, de bons étudiants naturellement, hein, qui arrivent ensuite au niveau master dans le top 10 des grandes écoles de commerce, hein, comme par exemple Schema, Neoma, Audencia, etc. Oui, l'IUT est une très bonne alternative, et peut-être sur le territoire davantage mettre en avant, en fait.
Oui, hein, alors l'IUT. Effectivement, on pourrait mettre au défi les Tarbais de pouvoir situer l'IUT dans la ville de Tarbes.
Oui, exactement, parce que je me suis rendu compte que certains Tarbais, ouais, méconnaissaient.
Ouais.
Effectivement, et peut-être une connaissance du campus au sens large, parce qu'il y a l'école d'ingénieurs qui n'est pas très loin. En fait, on fait partie de la même entité depuis 2023, presque jour pour jour, parce que c'était le 24 novembre, la naissance de la 4e université de technologie de France, donc l'UTOP, qui est notre université. Et on a deux composantes, donc l'IUT et l'ENIT, qui se trouvent tout juste à côté.
On peut dire aux Tarbais et puis aux personnes qui nous écoutent et qui sont pas très loin de Tarbes que à Tarbes, il y a cette formation TechDeco qui existe, qui est accessible, et c'est dommage de passer à côté sans le savoir. Donc on peut profiter d'être tout prêt pour pour se renseigner.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre, il y a un rendez-vous qui permettrait de faire mieux connaissance avec l'IUT. Ce sont les journées portes ouvertes. D'ailleurs, tous les établissements ont les mêmes dates. C'est les 30 et 31 janvier. Donc le 30, c'est le vendredi, ça commence à partir de 13h30 et ça peut être une belle occasion de venir découvrir l'IUT, notre campus, parce qu'au-delà de ces deux établissements, il y a également un CROUS, une résidence universitaire, des aménagements aussi qui sont vraiment super pour les étudiants, avec des espaces pour faire du sport notamment. Voilà, donc ça peut être une occasion.
Il y a combien d'étudiants aujourd'hui sur votre campus et en particulier dans votre filière?
Alors, plus de 3000, je crois, aux alentours de 3100, 3200 étudiants, en comptant les étudiants de l'école d'ingénieurs et de l'IUT, l'IUT étant la plus grosse structure.
Voilà. Et vos départements, Tech de Co?
Et nous, on est un gros département, on a 150 étudiants. En fait, 150 étudiants en première année. Et au total, on a, puisqu'on a quand même 3 années et aussi une licence pro tourisme, commercialisation des produits touristiques, au total, on a 410 étudiants.
Voilà, donc
420
c'est
étudiants.
C'est un gros département.
Oui, c'est un gros département.
Frédéric Gérard, depuis près de 10 ans que vous êtes responsable de ce département Tech de Co, donc à l'IUT de Tarbes, quelle évolution vous avez vue peut-être au cours des dernières années? Alors j'imagine que vous allez nous parler de l'IA, mais c'est peut-être pas le seul vecteur d'évolution. Qu'est-ce qui change au fond dans une formation comme la vôtre?
Alors déjà, un changement fondamental, c'est le passage du DUT en 2 ans au BUT en 3 ans. Donc là, c'est une réforme qui a maintenant, le temps passe vite, 5 ans par là. Et ça, c'est une grosse réforme parce que le programme a quand même été totalement remanié, justement dans le sens d'une professionnalisation. Mmh. Donc ça, c'était un grand changement. Et aussi pour permettre, au niveau du paysage universitaire européen, de permettre des échanges avec les universités étrangères, puisque c'est le niveau L3 qui est reconnu à l'international en Europe.
On a parlé du profil des candidats, mais est-ce que vous avez peut-être quelques exemples à nous donner des débouchés? Les étudiants qui sont passés à Tech de Co, ils sont où aujourd'hui? Ils travaillent dans quel domaine, dans quel lieu? Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples à nous donner pour qu'on ait un aperçu des débouchés possibles qu'il y a après le passage à Tech de Co?
Alors, si on parle des débouchés, forcément, il faut parler aussi des parcours que nous proposons à partir de la deuxième année. On a 3 parcours. Donc, un parcours autour de la relation client, ça s'appelle Business Development Management de la relation client, où là, les débouchés sont plutôt... là, je parle en termes de professionnalisation, qu'il existe ensuite des masters, des poursuites d'études dans tous nos parcours. Donc, ça tourne plutôt autour, par exemple, des métiers... Alors, soit de la vente directe, soit en agence immobilière, par exemple, en banque, en assurance, par exemple.
Ah oui.
Ensuite, on a... mais pas seulement, hein, c'est assez réducteur, parce que tout dépend ensuite de la poursuite d'études réalisées. Les étudiants peuvent aussi trouver des débouchés, par exemple, dans le domaine du marketing.
C'est déjà un panel très large.
Oui, c'est un panel très large. C'est une formation qui est quand même très 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 généraliste. Donc ça peut être aussi par exemple acheteur dans la grande distribution, dans l'industrie, chargé de développement commercial, etc. Ensuite, on a un deuxième parcours qui lui est un parcours intitulé Business International Achat et Vente, qui prépare essentiellement à des métiers du commerce international, marketing, communication, logistique, transport, stratégie d'entreprise à l'international. Et notre troisième parcours qui a le vent en poupe, vous parliez tout à l'heure des changements en 10 ans. Effectivement, on a introduit le marketing digital.
Oui.
Et donc, ça, c'est un parcours qui s'appelle...
Donc c'est là que l'IA...
Marketing digital et entrepreneuriat, e-business et entrepreneuriat. Alors, l'IA, on essaye de l'enseigner, en tout cas ses bons usages, à tous nos étudiants. Mais dans le cadre de ce parcours, donc il travaille plus spécifiquement l'e-business, hein, le marketing digital, le community management aussi, la production de contenu. Voilà, en somme, un peu les débouchés de nos trois parcours.
Alors, ce qui est frappant, c'est que plus ils avancent et plus l'étau se resserre, mais en même temps, à la sortie, il y a un panel encore plus large de propositions, de possibilités de vie professionnelle, en fait.
Ah oui, très, très, très large. En fait, la formation est extrêmement généraliste. Parce que là, je vous ai cité des parcours, mais en réalité, ils doivent toucher à tout, en fait, au cours de leur formation. Et on a besoin de commerciaux dans tous les secteurs
d'activité. Alors voilà, c'était ma question suivante. Il y a du travail dans tous les métiers là, que vous nous avez cités, toutes les filières, il y a du travail partout.
Oui, il y a du travail partout. C'est un des métiers qui est le plus recruté. Dans tous les secteurs, on a besoin de commerciaux. Beaucoup de candidatures en tech de co chaque année, voilà. Et ça ne désemplit pas.
On n'a pas parlé des valeurs. Je voudrais qu'on termine avec ça parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit, mais il y a quelque chose de très important. Ce sont les valeurs qui sont transmises dans notre formation. Quelles sont-elles ces valeurs ? On a bien compris qu'il y avait vraiment une importance des valeurs humaines de la relation, donc de la relation à l'autre. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous parler un petit peu de ces valeurs qu'il y a dans cette formation ?
Alors déjà en termes d'accompagnement. Avec les étudiants, on a des valeurs quand même d'écoute, de bienveillance.
Vous arrivez à accompagner sur mesure, enfin.
Alors quasiment. En fait, on a des directeurs d'études en fait qui aussi sont très très présents pour une personne en particulier qui est quasiment tout le temps là, qui discute énormément avec les étudiants. Et puis on a aussi cette capacité de déceler les problèmes. Il y a des problèmes de santé mentale. Alors justement, avec ce collègue et moi-même, on est formateur en santé mentale et on propose aux étudiants de se former pour être secouriste en santé mentale. Et justement pour repérer chez les autres, donc au sein de la classe, enfin c'est une formation
pour détecter
citoyenne,
quand ça va pas,
pour détecter quand ça va pas et savoir quoi faire quand ça va pas.
Alors,
donc c'est vrai qu'on insiste.
On prend l'engagement aujourd'hui que vous reviendrez nous parler spécialement
avec,
de ça.
Plaisir, de
cette
formation. Donc ça c'est déjà effectivement nos valeurs d'accompagnement, de bienveillance, d'écoute envers les étudiants. Et après par contre au niveau de la formation, ce qu'on cherche aussi à inculquer, c'est que le commerce, ce n'est pas uniquement faire du profit, qu'on peut faire du commerce de plein de manières différentes, déjà en étant dans la ligne droite de la transition écologique.
Ah oui, c'est possible.
Voilà, c'est possible aujourd'hui de faire du marketing innovant tout en étant durable. Et puis c'est aussi mettre l'accent sur une autre forme d'économie qui est l'économie de la fonctionnalité ou l'économie sociale et solidaire. Et donc on insiste beaucoup d'ailleurs sur ce point-là en proposant aux étudiants qui le souhaitent, déjà tous les étudiants depuis la première à la dernière année, de s'engager dans une action sociale et solidaire, ce qui leur permet d'avoir des points bonus, mais on les pousse à cela. Et on a une action particulière auprès des étudiants de troisième année en formation initiale où on les amène à faire une immersion dans une structure de l'économie sociale et solidaire en tant que bénévole pendant 5 semaines pour justement développer leur savoir-être.
Et est-ce que vous constatez que les associations ou les milieux où ils sont envoyés les accueillent volontiers aussi? Est-ce qu'on sait faire la place à ces jeunes qui ont besoin d'apprendre?
Ah oui, bien sûr. On organise d'ailleurs un forum des associations et des structures de l'économie sociale et solidaire au sens large et on fait carton plein en fait là encore parce que les assos, les structures viennent et sont très très demandeuses effectivement de pouvoir bénéficier de l'expérience des étudiants mais au-delà de ça c'est juste mettre la main à la pâte au quotidien dans l'association. l'association, s'y investir, c'est surtout ce qui nous paraît important au-delà de l'aspect stage, en fait. Hein. C'est plus qu'un stage.
C'est plus qu'un stage. Allez, une dernière question, Frédéric Girard. Pourquoi vous aimez ces métiers de commerce et ce métier d'accompagnement des étudiants que vous avez aujourd'hui en tant que responsable de ce département Tech Deco?
Alors, moi, ma vie professionnelle, ce n'est pas le commerce. Pas du tout, puisque je suis enseignante-chercheuse en psychologie, donc pas grand-chose à voir. Quand même, j'avais commencé un BTS de commerce dans une école de commerce à Paris il y a très très longtemps et j'ai pas du tout aimé.
Ah bon?
Ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Et le fait est que quelques années plus tard, la roue tourne et finalement je deviens responsable du département. Mais finalement, du coup de l'intérieur, ouais. J'ai appris aussi à aimer cette formation pour la grande diversité et pour tous les enseignements qui sont pratiqués, de l'économie, droit, psycho, expression. J'ai peur d'en oublier, il y a énormément de matières, c'est très généraliste et c'est ça qui est aussi passionnant.
Merci beaucoup d'être venu nous présenter donc cette formation Tech Deco. C'est vrai qu'on méconnaissait cette formation. Peut-être que on avait quelques préjugés sur cette formation. On a découvert avec vous Frédéric Girard que vraiment la relation humaine, la relation à l'autre est un point fort de ce que vous proposez à vos étudiants. Je rappelle la date du 30 et 31 janvier, portes ouvertes à l'IUT pour découvrir cette formation, enfin votre département et puis les autres formations du campus, bien sûr. Donc deux jours ouverts aux lycéens principalement, mais à toutes les personnes qui sont curieuses de découvrir ces formations et l'IUT. Hein.
Exactement. Et puis je précise aussi qu'on a la possibilité pour tous les lycéens qui nous écoutent de venir faire un mini-stage à n'importe quel moment pour découvrir la formation et vivre une journée avec les étudiants en formation en Tech Deco. Et donc merci beaucoup pour votre accueil, votre invitation.
Merci Frédéric Girard, à bientôt sur Radio Présence.
Voilà, nous étions à Tarbes, à l'IUT de Tarbes pour découvrir cette formation. Donc Tech Deco, merci aussi à Anne-Rose Jankovic qui a réalisé cet entretien. Allez, dans quelques minutes, on va s'intéresser à un architecte qui s'appelle Jean-Marie Lacrampe, né en 1855 à Lourdes. Il a construit de nombreux bâtiments à Lourdes, que ce soit l'hôtel de ville, le château de Soum ou encore l'école Honoré-Ozan. On va en parler dans quelques minutes avec Julie de l'Office de Tourisme. Ce sera juste après le journal régional présenté par Wassim Dir de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour à toutes et à tous. En ce début de semaine, Tisséo lance sa nouvelle campagne de recrutement pour 2026. Tisséo Voyageurs prévoit de renforcer largement ses effectifs afin d'accompagner l'extension de l'offre de transport et la mise en service de la future ligne C prévue pour 2028. Une campagne de recrutement propose 200 nouveaux postes à pourvoir pour 2026. Municipal 2026 à Toulouse, un candidat propose ni plus ni moins de rebaptiser la Ville Rose. Ancien chef d'entreprise, il mène une liste se voulant ni de gauche ni de droite et avance l'idée de revenir au nom historique de Tolosa pour marquer sa rupture avec l'équipe sortante. Le maire Joël Oclé annonce sa candidature pour les municipales de 2026. Joël Oclé, maire socialiste sortant de Marmande, a entretenu le suspense, mais c'est désormais officiel. Il brigue un nouveau mandat au municipal de mars prochain pour reconquérir la ville qu'il dirige depuis 2020. 350 chercheurs accueillis à Toulouse cette semaine. L'université Paul Sabatier accueille depuis hier et jusqu'à lundi 350 chercheurs venus de tout le pays pour ausculter l'héritage des Jeux de Paris 2024. Sociologues, historiens et spécialistes du sport y débattront des retombées concrètes de l'événement, qu'il s'agisse d'impact social, de transformation urbaine ou d'évolution des pratiques sportives. Haute-Garonne, un service itinérant pour accompagner les femmes victimes de violences. Une garde d'enfants destinée aux femmes victimes de violences conjugales a été lancée ce début décembre 2025 par le Conseil départemental de la Haute-Garonne et l'association toulousaine L'Enfant Phare. Ce dispositif permet aux mères d'engager plus sereinement leur démarche tout en épargnant à leurs enfants l'écoute de récits traumatisants. La place Gambetta à Carmaux va accueillir une nouvelle patinoire. En effet, à partir du samedi 13 décembre 2025 et jusqu'au dimanche 4 janvier 2026, profitez d'une patinoire synthétique accompagnée d'une mini-fête foraine et d'un espace de petite restauration. Au menu, gaufres, crêpes et boissons chaudes pour bien se réchauffer cet hiver. Enfin, sur les terrains de football au Garonnais, la lutte contre la violence passe à la vidéo. Le district va équiper 5 arbitres d'une caméra lors de 5 matchs dits à risque, qu'il s'agisse de rencontres jeunes ou seniors, sans prévenir les clubs avant le jour J. L'objectif, mieux voir, documenter et sanctionner les débordements dans un département qui figure dans le top 3 et où les arbitres déclarent se sentir le plus en insécurité. Une excellente journée à tous.
Merci à Wassim Dir, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Merci à lui. Prochain point à 13h. Ce sera à 13h avec l'actualité nationale et internationale. Prochain point sur l'info sur Radio Présence. Bon appétit à l'écoute de Présence Midi.
Présence à Auch, 89.6.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Vous connaissez probablement plus ses œuvres que son nom. Dans Balade en pays de Lourdes, aujourd'hui, on va s'intéresser à Jean-Marie Lacrampe. C'est avec Julie de l'Office de tourisme de Lourdes. Bonjour Julie.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver. Je le disais, on va s'intéresser à Jean-Marie Lacrampe, qui est né en 1855 à Lourdes.
Exactement. Un Lourdais né à Lourdes, décédé à Lourdes plus tard. Et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on a tendance à plus connaître, quand on se balade dans les rues de Lourdes, ses œuvres et ses réalisations que son nom. Donc c'est Jean-Marie Lacrampe. Il est né à Lourdes le 4 mai 1855 d'une famille de petits commerçants. Et très tôt, on a vu qu'il avait une prédisposition pour le dessin. Il était un élève brillant à l'école libre des frères de Lourdes. Il était vraiment passionné, il avait un bon coup de crayon et c'est pour ça que très tôt dans sa vie, il s'est orienté vers un apprentissage, notamment auprès d'un confrère, c'est Louis Soulas, qui était architecte d'Argelès-Gazost, le village voisin.
Donc il est ensuite monté à Paris, il est revenu à Lourdes et il est devenu l'architecte municipal de la ville.
Exactement, il a peaufiné sa formation à Paris dans le cabinet d'un autre architecte célèbre qui était architecte des monuments historiques à cette époque-là. Peu de temps après, pour la petite anecdote, il avait été appelé par l'armée. Mais un accident a tout changé, il a été blessé lors d'une manœuvre et a été donc réformé. Et c'est à ce moment-là, avec cet événement, qu'il revient à Lourdes et qu'il démarre sa carrière d'architecte. D'abord, il continue à apprendre un petit peu auprès de notre confrère Hippolyte Durand, qui est un spécialiste à cette époque de l'architecture médiévale et qui notamment est chargé de la construction de la basilique supérieure, la fameuse chapelle qui a été demandée en premier lieu par la dame à Bernadette Soubirous. Et il va suivre avec lui, donc avec Hippolyte, ils vont suivre tous les deux ce gros dossier, finalement, des prémices de la création du sanctuaire tel qu'on le connaît maintenant.
Alors je le disais en début de cet entretien, on connaît plus ses œuvres que son nom, on va donc les détailler, on va vite comprendre qu'il a beaucoup construit des bâtiments à Lourdes et des bâtiments qui continuent à exister aujourd'hui.
Exactement, alors d'abord dans sa carrière finalement d'architecte de l'œuvre de la grotte, c'est à partir de 1894 jusqu'à sa mort qu'il a œuvré pour le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. D'ailleurs pour la petite anecdote, ça a été l'un des seuls hauts responsables qui a travaillé à la fois pour la commune et le sanctuaire. Il a notamment fait les rampes et clochetons de la basilique Notre-Dame du Rosaire et bien sûr a suivi les travaux de l'Immaculée Conception. Si on reste dans la thématique des églises, on peut aussi dire que c'est lui qui a repris le gros dossier aussi de l'église paroissiale du Sacré-Cœur qui avait été entamée en 1875 et qui, avec pas mal de péripéties finalement, a eu des travaux pas mal chaotiques. Il avait repris donc ces travaux en 1896, mais bon, il n'aura jamais fini finalement cette église. On le sait qu'il ne sera fini qu'en 1936. Et après, dans sa carrière aussi en parallèle, il est architecte municipal pour la ville de Lourdes à partir de 1881, à tout juste 24 ans, donc c'est très très jeune quand même pour son début de carrière. Et il a vraiment transformé la ville de Lourdes, qui était vraiment une qui est passé à cette époque-là d'une petite bourgade finalement à vraiment une ville internationale de pèlerinage. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais il a fait, voilà, en tant qu'architecte, il avait aussi toute la partie urbanisme, toute la partie travaux publics, génie civil aussi. Il fallait retravailler les égouts, toutes les infrastructures finalement qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont nécessaires quand on a une population qui est double, voire plus, sur certaines saisons.
Alors, on va maintenant lister les bâtiments qu'il a construits. Ces bâtiments, ils sont nombreux. On y passe probablement très souvent devant. On peut donner la liste et elle est assez étendue. Hein.
Tout à fait. Alors, en centre-ville, on reconnaît ces monuments notamment par leur rouge caractéristique, le fameux rouge lourdé. Et vous allez voir, en les listant, ça revient quand même en mémoire. Il y a notamment les trois bâtiments de l'hôtel de ville, les trois villas de l'hôtel de ville, le château de Soum, l'école Honoré-Ozon aussi, et en hôtellerie, certains grands hôtels. Le Grand Hôtel Moderne, construit en 1896, les hôtels Gallia et Londres, l'hôtel Beau Séjour, face à la gare aussi, et bien sûr, les Halles de Lourdes, qu'il a contribué aussi à reconstruire quand elles sont revenues de Toulouse.
Voilà, et on reconnaît sa patte dans les façades et dans son architecture. Hein.
Exactement, on reconnaît tout à fait son style aussi. C'est un style plutôt éclectique, avec un mélange un petit peu néo-Louis XIII et ce fameux rouge lourdé, vraiment, qui va être la couleur marquante du remodelage de la ville de Lourdes.
Voilà, il s'appelle Jean-Marie Lacrampe, et dans les anecdotes également, c'était un amoureux de la pierre. Il a même créé une école de tailleurs de pierre à Lourdes.
Exactement, en fait, il a vite compris l'intérêt de l'instruction, du fait de son long apprentissage auprès de tous ses maîtres. Il savait qu'il fallait former aussi les très nombreux tailleurs de pierre qui travaillaient à Lourdes. À cette époque-là, il y avait environ 300 tailleurs de pierre à la fin du 19e siècle à Lourdes, qui faisait vivre donc autant de familles. Et le but de Jean-Marie Lacrampe, ça va être vraiment de les former, de perfectionner leur artisanat, pour aussi avoir notamment des matériaux de base pour ces constructions après, plus tard, de meilleure qualité. Il va vraiment essayer de tirer tous ces tailleurs de pierre vers le haut.
Il s'appelle donc Jean-Marie Lacrampe, c'est donc lui, hein, vous l'avez dit Julie, qui a construit l'hôtel de ville, l'école Honoré-Ozon, le château de Soum. Bref, on peut encore voir ces constructions quand on se balade à Lourdes. Et il s'appelle donc Jean-Marie Lacrampe, né en 1855 et décédé en 1917. Voilà pour notre balade en Pays de Lourdes cette semaine. Un grand merci Julie, je rappelle que vous faites partie de l'Office de Tourisme de Lourdes et on se dit à très vite.
Merci beaucoup, à bientôt.
Balade en Pays de Lourdes. En partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Présence à Cajarc, 97.7.
Bienheureux Pascal Vergès, un enfant de la Bigorre, mort en haine de la foi, une histoire racontée par Mgr Jacques Perrier.
Bonjour, hier je vous ai présenté le groupe des 50 martyrs de l'apostolat qui seront reconnus bienheureux à Notre-Dame de Paris le samedi 13 décembre. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu la biographie de Pascal Vergès, au moins jusqu'à la dernière année, celle qui l'amènera au martyr. Pascal Vergès est né en 1910 et dans le village d'Aucun, dans le magnifique Val d'Azun. Aucun est à ce moment-là une commune de 722 habitants, et chrétiennement, ecclésialement, c'est un doyenné. Il est baptisé, évidemment, très rapidement après, le 3 avril, il est né le 27 mars, il est baptisé le 3 avril, et à Aucun, on a encore la cuve baptismale, qui, je crois, date du 16e siècle, qui est assez curieuse, parce que tout autour, la figuration est très, très expressive, et le relief a été très bien conservé, de toute une série d'activités tout à fait profanes, d'ouvriers, de danseurs, d'acrobates, qui n'ont aucun symbolisme particulièrement religieux. Son père exerce la noble tâche de gendarme. Il est baptisé, évidemment, avec comme marraine sa grand-mère, Marie Vergès, et puis son parrain est du côté, évidemment, de sa mère. Et le curé s'appelle Jean-Baptiste Géza. Il est né en 1845, donc c'était pas tout gamin à l'époque. Il est de Villelongue, on reste dans le coin. Hein. Bon, il restera très longtemps puisqu'il sera là de 1901 jusqu'à 1926. Donc c'est vraiment le prêtre de l'enfance de Pascal et il jouera un certain rôle, comme je veux dire, dans un instant. Et il se retirera d'ailleurs à Villelongue et il y mourra en 1930. La vie familiale, c'est une vie très, très religieuse. Sa mère est très chrétienne, très religieuse, etc. Son père peut-être un peu plus distant, mais enfin, c'est quand même un catholique, un pratiquant, etc. Bon. On dit que le curé venait de temps en temps manger à la maison, les soirs d'hiver, que la famille était accueillante, il y avait des gens de passage, des pauvres, enfin, disons, vraiment une famille chrétienne. Après Pascal, il aura eu une sœur, Clémentine, assez nettement plus jeune que lui, puisqu'elle naîtra en 1917, elle mourra assez jeune, elle mourra en 1950. Elle était mariée, et quand elle meurt, elle est en région parisienne, où travaillait son mari. Et ils avaient déjà eu un enfant, qui s'appelle Michel, et donc qui est un neveu de Pascal. Ce neveu a quand même beaucoup, beaucoup entendu parler de Pascal par sa grand-mère, voilà, la mère de Pascal. Et donc, lui est toujours vivant. Alors, on dit que l'enfant, il va à l'école, c'est un bon élève, quoi. Bon, il va souvent à l'église, il prie souvent devant une statue de la Vierge. Alors, elle existe toujours sur le côté, une belle statue de la Vierge. Bon, il aime servir la messe. Et donc, il est confirmé à Luz. Alors, ça se passe à Luz. En 1921. D'ailleurs, la famille se déplacera et ira habiter finalement à Luz. Alors, curé voit bien que cet enfant a une dévotion particulière quand même. Peut-être il pourrait être prêtre. Et donc, il va falloir convaincre les parents. Est-ce qu'ils accepteront que leur enfant se prépare? Bon, et à l'époque, préparer un enfant en vue du sacerdoce, c'est l'envoyer au petit séminaire. Je nous ai raconté tout ça par quelqu'un qui a croisé Pascal Vergès pendant les temps de la guerre, qui a donc recueilli pas mal de souvenirs, de confidences, surtout. Et en particulier, il était ce Jean Berthet était très ami d'un prêtre contemporain de Vergès et qui a pu lui raconter beaucoup de choses. Bon, qu'il a édité une plaquette paru en 1998, donnant la biographie, c'est en fait la seule qu'on ait, hein, on n'a pas beaucoup de détails, hein, en fait, voilà. Bon, alors, il reconstitue la scène du curé venant expliquer aux parents que ben, le petit, il voudrait bien être prêt, il faudrait qu'il aille au petit séminaire. Le père, le gendarme, bon, il dit, mais prêtre, c'est pas un métier. Et alors, le gosse, Pascal, il avait entendu déjà raconter par son père que quand son père avait dit à son propre père, donc le grand-père de Pascal, quand il lui avait dit qu'il voulait être gendarme, et le grand-père avait dit, paraît-il, au futur gendarme, courir derrière les voleurs, c'est pas un métier. Alors, c'est pas un métier d'être gendarme, c'est pas un métier d'être prêtre, mais c'est quand même de très beaux métiers. Voilà. Donc finalement, le père se laisse convaincre, la mère est très, très heureuse. Voilà. Bon. Alors le père dit un peu plus tard, « Oh, de toute façon, avec ta soutane, tu pourras toujours bêcher le jardin. Bon. » Et effectivement, Pascal va aller au petit séminaire de Saint-Pé, comme pratiquement tous les futurs prêtres du diocèse de Tarbes et Lourdes, bon, mais il viendra beaucoup en vacances. Enfin, il sera plus dans sa famille à partir de 1921. Enfin, quand il reviendra, il pourra toujours bêcher le jardin. Alors, il fait son petit séminaire. Il est très bon, le fils du gendarme, il est très bon en latin et en grec. Bon, du petit séminaire, on passe au grand séminaire. Et donc, il fait son séminaire à Tarbes. Et le séminaire, ce qui est maintenant la maison diocésaine, ou la maison Saint-Paul, voilà, il a eu tous les noms successivement, vient à peine d'être construite. Il y a 2-3 ans que c'est rouvert. Bon. Et la chapelle, ben, elle n'était pas construite encore, puisque je crois qu'elle sera inaugurée en 1936, un an après l'ordination de Pascal Vergès. Il fait son service militaire à Brive en 1931. Ces temps-là sont utiles parce que ça donne lieu à du courrier. Bon, donc on a quelques lettres, et on voit qu'il regrette beaucoup la famille. Enfin, cet homme est certainement, on disait, c'est un grand silencieux, il n'est pas très expansif, mais je crois qu'il est quand même assez affectif. Il a besoin de chaleur humaine, voilà. Il disait quand il était au petit séminaire, Bon, les professeurs, c'est comme si, c'est comme ça, il y en a des bons, des mauvais. Enfin, il dit à ce moment-là, il dit, c'est la vie. Mais il dit, heureusement, j'ai des bons camarades. Je crois que c'est important, parce qu'on sait peu de choses, en fait, soyons honnêtes, sur Pascal Vergès. Et bon, il ne faut pas le figer dans l'image du martyr silencieux. Non, non, voilà. D'ailleurs, s'il a pu avoir un apostolat qui le mènera au martyr, c'est bien quand même qu'il exprimait quelque chose. Et quand il était enfant, bah, il faisait aussi un peu les 400 coups avec les autres. Il ne faut pas en faire un saint de vitrail tout jeune. Donc, il fait son service militaire, il est ordonné prêtre le 2 juillet 1935. Je crois que ça se passe à la basilique du Rosaire, parce que c'était un jubilé pour Monseigneur Gerlier, voilà. Et ils sont 5, 6, voilà. Et donc, il y en a en particulier un qui était d'Argelès, et un autre qui était de Saint-Savin. Alors, la dernière année de son séminaire, il était déjà surveillant à Saint-Pé, mais ben, il va retourner à Saint-Pé, et il va enseigner le français et le latin. Et il avait dû, comme phrase, au moment où il célèbre une de ses premières messes, il avait dit « Prêtre, je le suis, prêtre, je le serai jusqu'à la mort ». Je pense bien vous répéter cette phrase-là en conclusion de cette petite série d'émissions au moment de son martyr. Donc, il est prêtre. Le week-end, il s'en va dire des messes dans des paroisses, presque des retraites. Puis souvent avec l'abbé Sassus, celui par qui nous sont arrivés beaucoup de détails sur sa biographie d'enfance. Il est mobilisé, évidemment, en 1939, et il est dans le service de santé. Le service de santé, c'est pas une planque, hein, parce que s'il faut aller chercher les blessés, il peut y avoir autant de risques que si on était combattant. Il est mêlé à des combats très durs, d'ailleurs. Il est fait prisonnier, et donc il est emmené en Allemagne, il aura le statut de prisonnier. Et pour les prisonniers, il y a une organisation de l'aumônerie générale des prisonniers de guerre, qui est présidé en France, depuis Paris, par l'abbé Rodin, qui sera le futur fondateur du Secours catholique. Voilà notre Pascal Bernard, on peut dire une vie très, très réglée, enfin, très, très normale, entre 1910 et le moment où il est fait prisonnier, 1940. Et le tournant de sa vie, ce sera 1943. À demain.
Bienheureux Pascal Vergès. Un enfant de la Bigorre, mort en haine de la foi, une histoire racontée par Mgr Jacques Perrier.
Seul j'ai mon appui, il me couvre de ses ailes quand le fléau frappe à midi. Mon abri, ma forteresse, en lui seul j'ai mon appui, il me couvre de ses ailes quand le fléau frappe à midi. Si la paix pour toi, il donne l'ordre à ses saints et ses anges de te garder en toutes tes voies. Mon abri, ma forteresse, en lui seul j'ai mon appui. Il me couvre de ses ailes quand le fléau frappe à midi. Mon abri, ma forteresse, en lui seul j'ai mon appui. seul, j'ai mon appui. Il me couvre de ses ailes quand le fléau frappe à midi. Mon abri, ma forteresse, en lui seul, j'ai mon appui. Il me couvre de ses ailes quand le fléau frappe à midi. Mon abri, ma forteresse, en lui seul, j'ai mon appui. Il me couvre de ses ailes quand le fléau frappe à midi.
Danse dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu ce matin par le pape Léon XIV dans sa résidence de Castel Gandolfo.